頑張れ。
On est à fond.
À la fond. Alors c'est vrai que ça faisait très 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 longtemps que, en fait, à Retro Game Test, ce qu'on voulait faire dans l'émission, c'était tester Rob le robot, le Zapper avec Duck Hunt.
Ouais.
Mais le problème, c'est que c'est des jeux où tu peux pas réellement faire une émission.
C'est dur.
C'est dur.
Passer 30 minutes avec Rob, il est sympa, mais...
il saoule vite.
Il parle pas beaucoup.
Il parle pas beaucoup. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la Providence est passée par là.
La Providence.
En la personne de Florent Gorge. De toi, Florent.
Bah écoute.
Salut, Florent.
Tu dis... Salut, maman.
Ça va?
Ça va très bien.
Et je dis ça pourquoi? Parce que, en fait, la Providence, c'est toi qui viens avec le tome 3 de Nintendo.
Tome 3 de l'histoire de Nintendo.
L'histoire de Nintendo, qui est spécialement celui-ci sur la NES.
Et la Famicom. Ou plutôt la Famicom et la NES, ça dépend.
Alors ça, on va en parler dans deux secondes alors.
Ouais.
Donc alors, en fait, oui, donc, alors ce qu'on s'est dit aujourd'hui, c'est qu'on allait faire une émission un peu spéciale. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on va pas réellement tester un jeu, on va tester plusieurs jeux.
Comme tu veux.
C'est-à-dire qu'on va tester des jeux, mais on va parler de la NES. Ça va être en fond, ça va être un alibi, je dirais, pour discuter de la NES, parce que moi j'ai absolument envie de discuter de la NES, autrement dit, parler de notre ami qui est sur le côté, faut pas trop le toucher parce que
il est sensible,
il est sensible.
Des fois il est capricieux.
Et aujourd'hui donc on va jouer avec le
Zapper.
Oui, mais le M82.
Ah.
Ça c'est exceptionnel.
Ah, la machine qui nous a tous fait rêver dans les magasins.
Ah, c'était exceptionnel.
Le jukebox.
Juste pour vite introduire, quand même, il faut qu'on en parle du.
Bah écoute, moi je vais jouer un truc pendant que tu parles. Allez.
Ah bah voilà. Donc le tome 3 de Nintendo, de l'histoire de Nintendo sur la NES.
Ouais.
Et donc en fait, moi. C'est bien, alors c'est quoi comme jeu là que tu nous as mis?
C'est un de mes jeux favoris, RC Pro-Am, un petit jeu développé par Rare, édité par Nintendo en 87. C'est un petit jeu de voiture télécommandée et c'est fun.
Une petite bougie, c'est ça?
Exactement, et tu vois, c'est très rigolo.
Alors moi, j'ai juste une question.
Ouais.
Il y a 286 pages dedans?
Non, 236.
236?
Je t'enflamme.
Ah, je m'enflamme, mais 236. Comment tu as fait pour faire un livre avec 236 pages sur la NES, que sur la Nintendo? C'est possible ça?
Bah écoute, oui, il fallait le faire. Non, mais en fait, ce bouquin-là, j'en suis plutôt fier, puisqu'il y a énormément d'anecdotes rigolotes sur la fabrication et la vie, l'histoire de la NES et de la Famicom. Mais je suis quelque part un peu frustré, parce que 236 pages, c'était presque pas assez. Il y avait tellement de choses à raconter sur cette console qui a marqué l'histoire. C'est peut-être même pas assez, en fait. Donc... voilà, 236 pages d'anecdotes assez incroyables sur cette machine mythique. Et j'aurais aimé pouvoir en faire beaucoup plus, mais...
Tu penses qu'il y avait beaucoup plus à faire que ce que tu as fait?
Ah oui, bien sûr. Ah, carrément.
T'aurais pu en faire beaucoup plus que 236 des pages?
Ah, tout à fait. Rien que sur l'histoire, on pouvait largement faire les 300. Bon, alors après, que les gens soient pas trop dégoûté, il y a largement de quoi faire avec ça. Après, on serait rentré dans des détails vraiment
là,
trop pointus.
Là, tu commences à me dégoûter, je me dis, j'en aurais voulu plus, là.
Non, mais après, on rentrait dans des détails beaucoup trop pointus, ça aurait vite fait saouler tout le monde. Donc, non, c'est mon côté un petit peu... voilà, historien qui voulait que j'en voulais beaucoup plus. Mais 236 pages, déjà, il y a de la lecture, hein, vraiment.
Donc... alors, excuse-moi, donc juste, alors là, ce que je vois, donc juste pour dire, donc c'est Omake Books.
Oui, qui, c'est édité aux éditions Omake Books, exactement.
Donc, édité, distribué aux éditions Omake Books.
Oui.
Et il y a une version, donc là on voit la couverture, c'est la version NES.
Et ouais.
C'est la console occidentale.
Tout à fait.
Et il y a une autre couverture qui sera distribuée exclusivement par Pix & Love. Sur le site de Pix & Love,
c'est ça. Sur le site de Pix, exactement.
Vous pouvez retrouver sur le site de Pix & Love. Et cette fois-ci, ce sera la Famicom.
Voilà.
Et est-ce qu'on peut parler un petit peu de la Famicom de la NES? Parce qu'il y a une anecdote assez sympa dans le livre.
Mais peut-être juste avant, en fait, parce que on va peut-être faire peur aux gens qui peuvent être éventuellement intéressés par le bouquin.
Oui.
La couverture est différente, mais le livre est le même.
Le livre est le même.
Voilà, c'est exactement
le même. Le contenu est le même.
C'est juste que la version Famicom, elle sera exclusivement distribuée par le biais du site de Pix & Love, pour lesquels j'ai travaillé pendant un certain nombre d'années. Et puis donc Omake Books, qui est ma nouvelle société, puisque j'ai malheureusement quitté Pix & Love pour pouvoir me consacrer plus facilement à l'écriture. Et pour pouvoir vivre un minimum, voilà, je suis obligé de le faire sous le nom de ma propre société. Voilà.
D'accord, donc
Omake Books.
Voilà, on le retrouve sur omakebooks.com.
Ouais.
Voilà. Alors, on parlait. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à dire sur ce petit jeu? On va parler de la NES quand
non,
même.
On va regarder les. Enfin, les joueurs vont pouvoir le regarder, puis nous on discute.
Voilà. Exactement, exactement. Alors, je lisais dans le livre une anecdote assez intéressante, c'est que c'est là qu'on se rend pas compte, nous, comme étant hardcore gamer peut-être, ou très rétro gamer.
Ouais.
Peut-être. C'est qu'en fait, nous, on a plus connu cette console, la NES. Mmh. Nous, en Occident, aux États-Unis et en Europe, on a eu cette console. Donc, nous, on connaît tous cette console.
Oui.
Mais au Japon, c'est celle-ci. Et quand je dis que dans le livre, tu racontes au début du livre,
oui.
Tu expliques que quand toi, tu arrives au Japon et tu as eu un jour à discuter avec tes amis là-bas, mmh. et toi, tu parlais de la NES, mmh. ils ne te comprenaient pas.
Ouais, en fait, pour resituer, c'est une époque, c'est la fin des années 90, en 97 très exactement. J'ai passé de nombreux mois au Japon et puis mes amis, on parlait de jeux vidéo. Et à cette époque, en 97, bon, j'étais pas forcément très très au courant de l'histoire des jeux vidéo. Je commençais à m'y intéresser vraiment. J'étais joueur de longue date. Et on parlait de vieux jeux et je leur disais, écoutez, moi, ma console que j'ai eue quand j'étais enfant, c'était la NES de Nintendo, puis alors, ils comprenaient pas. Il a fallu que je leur explique quel genre de jeu on a eu, et c'est là qu'ils m'ont dit, mais ta NES, en fait, c'est la Famicom. Puis bon, j'avais vaguement entendu parler de ce mot-là à cette époque, c'était il y a 15 ans. Et c'est à partir de ce moment-là que de mon côté, moi, j'ai découvert la version japonaise de notre NES.
C'est celle-ci, donc avec beaucoup. Enfin, manette intégrée.
Incrustée directement dans la console. Ouais.
Voilà. Alors.
Entre autres, hein, parce qu'il y a énormément de petites différences.
Alors là, on aborde l'aspect physique. Il y a deux histoires, tu m'expliquais. Hein.
Ouais.
La NES, il y a la vie de la NES et il y a la vie de la Famicom.
Le bouquin traite des deux, oui.
Donc ça traite. Tu traites en fait des deux aspects, les deux vies, parce que c'est des vies parallèles. C'est les mêmes consoles au niveau hardware.
Oui, oui, tout à fait.
Mais c'est pas la même vie au niveau.
Ah non, c'est deux territoires différents, donc les marchés sont fondamentalement différents, les concepts ont été pensés de façon différente. Ils ont chacune à leur histoire, hein, très clairement. Même si les jeux sont à peu près les mêmes en fonction des marchés, il y a eu des différences évidemment. Oups. Mais oui, c'est deux consoles qu'il fallait traiter de façon indépendante.
D'accord. Alors aujourd'hui, on va peut-être plus parler éventuellement des accessoires parce que la Nintendo, dans les deux pays, enfin la Famicom et la NES, mm-hmm. C'était un peu un entertainment system.
Oui.
Nintendo Entertainment System. Et qu'est-ce que ça voulait dire ça en fait?
Pour resituer, il faut resituer un peu l'histoire. La Famicom sort en 83. 1983, à une époque où au Japon, bon, il y a rien de particulier, mais en Occident et plus particulièrement aux États-Unis, il y a une crise du jeu vidéo qui fait que les joueurs se sont carrément désintéressés du jeu vidéo, et surtout du jeu vidéo domestique, donc des consoles. Or, quand Nintendo, en 1984-85, essaie d'exporter sa Famicom aux États-Unis, ils font face en fait à la réticence de tous les distributeurs qui ne veulent plus entendre parler de jeux vidéo parce que ça ne marche plus.
Parce qu'il y a eu un crash.
Il y a eu le fameux crash exactement du jeu vidéo. Et donc, d'un point de vue marketing, Nintendo va commercialiser sa console en faisant tout pour éviter d'utiliser le mot jeu vidéo à l'intérieur, donc surtout pas vidéo game. Et ils ont marketé leur console comme une machine d'entertainment, donc de loisirs, voilà. Ils n'ont pas marketé ça comme une simple console, mais plutôt comme une interface de loisirs. Et c'est pour ça qu'ils ont développé Rob le robot, qui avait le zapper, c'est pour montrer que c'était une expérience carrément, et plus qu'une simple machine de jeu comme on en avait avant avec l'Atari 2600.
C'était
une question de concept, c'est du marketing hein, pur. Hein.
Voilà, c'était de dire c'est pas une console, c'est plus
c'est
qu'une
plus
console.
Que ça, c'est beaucoup plus que ça, c'est... Une machine, j'avais un terme qui correspondait mieux à entertainment, mais c'est une machine de loisir, quoi. C'est
d'accord, c'est familial quoi. En plus, c'était un peu.
Ouais, oui, tout à fait. Ouais.
Et alors, donc là, on expliquait la NES, la Famicom. Aussi bien la Famicom que la NES ont eu cette démarche.
Pour la Famicom, c'est un peu différent parce qu'il n'y a pas eu de crise du jeu vidéo dans ces années-là. Elle n'a pas du tout existé. Le concept de la Famicom.
Parce que les origines de la NES, c'est la Famicom en 83 quand même.
Tout à fait, ouais. Elle a deux ans d'avance par rapport aux États-Unis et puis encore plus par rapport à l'Europe. Mais la Famicom, quand elle est sortie en 1983, c'était une révolution d'un point de vue technologique, puisque... j'essaie de me concentrer.
C'est pas facile.
Non, c'est très très dur.
Après, on saura peut-être de jeu, non?
Si tu veux, mais...
Oh, j'ai envie qu'on fasse un Duck Hunt.
Oula, il va falloir que je me concentre encore plus.
Non, mais je vais jouer à Duck Hunt.
Ah, tu vas?
Bon. On se passe le pistolet, non?
Non, mais moi, je vais contrôler les canards, parce qu'avec le bouton 2, on contrôle les...
Ah bon?
Avec la manette 2, on contrôle
d'accord.
les canards.
Donc. Alors...
Et ouais, donc en 1983, t'es pas très bien en face, mais bon.
Si, je vais y arriver. Ah oui, alors 1983, donc la Famicom sort.
La Famicom, le concept, en fait, c'est de développer pratiquement une borne d'arcade. Donc je contrôle le canard. Et je
tu m'esquives là en fait.
Ah bah je fais en sorte que tu me touches pas.
Attends, mais pourquoi? Et si tu lâches pas, c'est l'ordinateur qui fait.
Qui contrôle lui-même, un peu de façon aléatoire. Mais t'es tout pourri.
C'est quoi cette histoire?
Tu sais, attends, vas-y voir. Voir si moi.
Ah, je vais essayer de t'esquiver moi. Il faut bien viser.
Mais j'ai l'impression
que. Ah non, j'ai testé, j'y ai joué, je l'ai bien testé. Il y a
vas-y, on se ridiculise.
Oui, alors en 83.
Non, il est mort en plus tard.
Non, il tire, il fonctionne.
Et pourtant, je suis une bête à ce jeu là. Mais là.
Il faut peut-être que tu.
Non, il est mort. Franchement,
attends.
Lève-toi, va le mettre sur l'écran comme pour tous les enfants.
Ah bah alors, ça veut dire qu'on va pas pouvoir jouer à Duck Hunt.
Non mais en gros, voilà, on voit ce que c'est.
Bah ben voilà, en fait, c'est ça que tu dis, l'entertainment en 1983, c'est marrant. C'est...
En fait, le concept de la Famicom au Japon, il était un petit peu différent du nôtre. C'était d'arriver à créer une borne d'arcade en fait à destination des foyers.
D'accord.
Et aujourd'hui, ça prête à rire parce que techniquement parlant,
on va changer de jeu.
Ça reste une 8-bit.
Qu'est-ce qu'on va se faire là?
Mais en 1983, la technique dans les salles d'arcade et ce que propose la NES. Enfin, la Famicom, du moins, c'est pas très éloigné. Et pour ça, c'est
une révolution. Dr. Mario, à deux, ça te va?
Ça va.
Donc pour ça, c'est une révolution. C'est ça que tu... J'essaye de suivre en même temps.
Mais
je me concentre sur le...
Comme on part un peu dans tous les sens, ça devient pas très clair pour, à mon avis, tout le monde. On a du mal à expliquer le concept. Vas-y, prends un niveau un peu plus élevé.
D'accord, vas-y.
Allez, on va prendre le même. Vas-y. Mais t'es de quel côté, toi? T'es à gauche?
Alors, je vais te dire ça.
Non.
Moi, je suis à droite.
Non, t'es à gauche. Ah, t'es à gauche. Moi, je suis à droite. Bon, allez, on va y arriver.
Non, je suis à droite.
Eh, ce jeu-là, si tu veux arriver à te concentrer et parler, ça va être difficile. Hein. C'est pas qu'il est foncièrement très dur, mais moi, je vais avoir du...
Oui, non, mais revenons à nos moutons. Donc oui, l'entertainment en 1983.
Attends, c'est impossible.
Moi, je suis à droite. Hein. Je tiens à te le signaler.
Putain,
on a interverti les manettes, tiens.
Ouais.
Alors, tu vas te sentir mieux, tu seras...
Ça ira mieux. Ouais.
Donc j'étais bien à la droite. Oui, donc alors on disait 1983, les accessoires, on était sur ça peut-être?
Non.
on était sur
non,
quoi?
On parlait du concept, on en a très très mal parlé, parce que j'ai juste raconté que c'était censé être une borne d'arcade à la maison.
Oui. Voilà, exactement, t'étais sur ça, voilà.
Voilà, et surtout, Nintendo voulait le proposer à un prix extrêmement compétitif, puisqu'il avait demandé à l'origine à ses hommes de la vendre à moins de 10 000 yens, ce qui fait 10 000 yens, aujourd'hui, ça fait moins de 100 euros, bien entendu. Et donc, proposer une borne d'arcade à la maison, puisque c'est le concept d'origine, pour moins de 10 000 yens, il faut taper sur le bouton start.
D'accord, excuse-moi.
Ça pouvait faire rêver un certain nombre de gamers à cette époque. Ouais.
D'ailleurs, on le voit dans le livre, il est bien expliqué qu'ils faisaient une course au moindre coût. Il voulait la proposer à un prix dérisoire.
Bah, la moyenne du prix des consoles à cette époque oscille entre 25 et 30 000 yens, c'est-à-dire 2,5 fois, voire 3 fois plus que le prix que voulait le président Nintendo à cette époque. Donc pour arriver à proposer une machine équivalente d'un point de vue technique aux bornes d'arcade, il fallait trouver un moyen de faire des économies. Donc si on pouvait pas forcément faire des économies, t'es tout pourri hein.
Mais j'ai du mal à comprendre le concept, c'est la première fois peut-être que je joue à...
Ah bon?
J'avais joué sur Game Boy à l'époque.
Bah c'est le même.
D'accord.
Arriver à proposer le fin du fin d'un point de vue technologique sans avoir à sacrifier la technique, puisqu'il fallait quand même une technique qui suive, hein, pour proposer quelque chose en même temps aussi puissant que dans les bornes d'arcade, il fallait trouver d'autres moyens d'économiser sur le prix de vente de la console, en fait.
D'accord.
Donc, il y a des tonnes et des tonnes de petites techniques qui font que, par exemple, les fils de la Famicom, on voit qu'ils sont directement accrochés à la console.
Oui, comme on a vu tout à l'heure là.
Exactement. Alors, c'est pour une simple et bonne raison, c'est que ça coûtait moins cher, évidemment, de les intégrer directement dans la console plutôt que de faire des prises détachables.
Et pourquoi, par exemple ?
Ben parce qu'une prise, ça demande du plastique, ça demande une connectique particulière qui a un coût.
D'accord, je vois le truc.
Ensuite, si tu regardes... Oh là, ça a repris déjà.
Oui.
Si tu regardes aussi les manettes de la Famicom, elles sont... les fils sont super courts.
Oui.
Par rapport à la NES, il fait au moins 2 mètres le fil.
Oui, mais ça, on l'a souvent dit, c'est au Japon, les appartements sont plus petits.
Il y a de ça, bien entendu. Mais en même temps, ils préviennent bien quand même les gens de jouer éloignés, et pourtant les fils sont courts par rapport à la télé, tu vois. Donc... Le but, évidemment, c'est pas de faire jouer les enfants le nez contre l'écran, ni même face à sa console. Certes, les appartements sont pas grands, mais c'est aussi un moyen d'économiser quelques yens sur chaque coût unitaire des fils de la connectique. Et donc voilà, des tas de petites techniques comme ça, la qualité du plastique, les matières premières, tout ça. Donc tout est fait pour que le prix soit minimisé.
Et c'était pourquoi réellement tu me dis que c'était pour que ça puisse rentrer dans les foyers qu'il fallait qu'elle soit pas chère ?
Pour que ça puisse rentrer dans les foyers ?
C'est-à-dire bah, pour pouvoir la vendre, il y avait...
Ils voulaient la vendre. Donc eux, pour Nintendo, c'était moins cher que la concurrence, tu pars déjà avec un avantage.
Oui.
Donc ça me paraît évidemment...
Oui, il n'y avait pas de concurrence à l'époque.
Tu rigoles, il y avait 15 consoles au moment où la Famicom est sortie.
Ah, d'accord. C'était pas plutôt des ordinateurs
Alors, au Japon ? C'est la nuance en fait, c'est que c'était pas des consoles à proprement parler.
D'accord. Je me suis dit là, j'ai manqué un pan de l'histoire là.
Mais c'était pas non plus des ordinateurs puisque c'était ce qu'on appelle tout simplement des.
On change de jeu ?
Pour toi, ça vaut mieux peut-être.
Vaut mieux. Mario, tu sais bien jouer à Mario ?
Ou comme n'importe quel.
Allez, vas-y.
Qu'est-ce que je veux dire?
Oui, donc il fallait que ça.
Il y avait de la concurrence.
Voilà.
Et surtout,
des ordinateurs.
C'était, oui, des ordinateurs hybrides. C'est-à-dire que c'était pas vraiment des ordinateurs, c'était relativement limité. Et. Putain, c'est pas ma manette, hein. Je crois qu'il y a une.
Wouhou! Mais. Ça, c'est l'excuse, ça.
C'est... non, c'est vrai, il y a un petit. J'ai l'impression qu'il y a une petite latence.
Il y a du lag, non, c'est ça?
Il y a une. Ça, c'était...
Non, mais il y a toujours eu ça hein, dans Mario. C'est-à-dire que quand il s'arrête pas exactement.
Ah non, c'est pas une question de. C'est vrai qu'il a toujours glissé, surtout dans le premier. Mais le bouton, en fait, il est. J'ai l'impression que ton bouton, il est usé. Parce que, ouais, il a un tout petit lag, très léger, mais en fait, il faut s'y habituer, quoi.
Donc oui, alors effectivement, il y a cet aspect, comme tu disais, de concurrence. Et d'ailleurs, il y a une anecdote dans le livre qui est assez sympa, que j'ai bien aimé. C'est Hideki Kono. On dit ça comme ça Hideki Kono.
Hideki Kono, ouais.
Kono, qui sera le père de Mario Kart et de Nintendogs par la suite, une fois bien des années plus tard.
Attends, je vais essayer de t'avoir les feux d'artifice.
Vas-y.
Ah non, mais je les aurai aussi. Hein. C'est, aurai, les feux d'artifice, mais j'ai raté. Tu sais, il y a un problème.
Demain, tu les auras demain.
Non, regarde, les feux d'artifice, pouf.
Voilà. Ah oui, donc tu les as quoi qu'il
se passe. Tu sais comment faire ?
Bah, comment t'as fait ?
Il faut que tu accroches le drapeau quand le temps s'arrête sur un 6. S'il s'arrête sur un 6, t'auras 6 feux d'artifice. S'il s'arrête sur un 3, t'auras 3 feux d'artifice.
Et si c'est sur un 2, 2 et ainsi de
suite ? Il n'y a rien. En fait, il n'y a que 1, 3 et 6 qui te donnent des feux d'artifice.
Bah, on aura appris quelque chose sur un jeu alors aujourd'hui.
Quand même. Bah, quand même. Et pour avoir un 6, il faut que tu commences à sauter à partir de 9. Dès que tu vois le temps. Tu vois
le timing pour pouvoir vraiment sauter dessus, quoi.
Quand tu pars, quand tu t'arrêtes, tu es sur ton socle, et quand tu vois qu'il y a marqué 9, tu décolles, et normalement, tu arrives sur un 6.
D'accord. Ah bah tu vois, comme quoi, c'est une bonne petite anecdote. Okay. Et oui, alors je disais, l'anecdote, c'est que ce monsieur, qui deviendra donc le papa de la série des Mario Kart et des Nintendo Dogs, lui était à l'école à ce moment-là, à l'époque de la sortie de la console.
Ouais.
Et il travaillait sur des ordinateurs, on le voit dans le livre, qui coûtait entre 400 000 yens et 500 000 yens.
Oui, ça fait du 4 000, 5 000 euros. C'est des ordinateurs puissants, entre guillemets, de l'époque. Hein,
De l'époque. Et quand un jour il se balade dans la rue, puis qu'il voit, il voit le prix de la Famicom en promotion à 12 800 yens, lui, dans son esprit, c'est pas possible. Donc lui, son esprit lui dit, c'est 128 000 yens.
Ouais, tu le racontes très très bien, à ceci près que tu oublies de raconter un truc, c'est que la Famicom à cette époque, on l'a dit, c'est exactement, il y a du Donkey Kong qui tourne dessus, il y a du Mario Bros, sont des jeux récents en arcade. Donc en 83, la Famicom propose la même chose qu'en arcade. Or, pour un joueur de l'époque, une machine d'arcade, c'est tout simplement inaccessible. Monsieur Kono, quand il travaille sur ces fameux ordinateurs dont on parle, la capacité, les capacités techniques de ce qu'il utilise dans son école est moins puissant, en tout cas d'un point de vue graphique, que ce que propose la Famicom. C'est des machines qui coûtent 4000, 5000 euros. Et quand il arrive donc dans ce fameux magasin et qu'il trouve une Famicom, au lieu de voir 12 800 yens, c'est-à-dire 100 euros, lui, il lit un zéro de trop. Et il trouve 128 000 yens. Et le truc qui est rigolo dans cette histoire, c'est que malgré tout, il trouve qu'elle est pas chère. Il se dit 128 000 yens pour ça, alors qu'en fait, elle a 12 800. Et c'est quand il se rendra compte de son erreur qu'il va...
Quelques jours plus tard.
Exactement, qu'il va se dire, mais c'est pas possible. Comme quoi, tu vois, c'est une console qui est extrêmement, pour l'époque, puissante. Et puis,
On va faire Gyromite.
On y passe tout de suite après, je termine juste mon
d'accord,
anecdote,
et
comme quoi qui est extrêmement puissante et surtout pas chère par rapport à ce que propose la concurrence et surtout les ordinateurs de l'époque qui sont bien moins performants. Quoi.
Et d'ailleurs, même...
terme graphique.
D'ailleurs, dans le livre, toujours dans le livre, on peut lire à un moment donné que ils avaient bien prévu, ils avaient fait en sorte que si la concurrence voulait éventuellement les copier au niveau console, ça aurait duré quelques années. Alors...
Et voilà, j'arrive au 6.
Parce que là, t'as attendu que ce soit...
J'ai attendu le 9.
D'accord.
Et puis, bon, là, t'attends que ça se découle, et puis tu vas voir le feu d'artifice.
Donc, effectivement, ils estimaient que le temps... Ils avaient un temps d'avance, Nintendo, au moment de la sortie de la Famicom, et ils disaient que si un concurrent voulait arriver, eh ben, il aurait quelques années...
Exactement. Et l'autre technique, parce que malgré tout, à 14 800 yens, parce que c'est le prix de la Famicom... On peut se demander comment Nintendo, on a beau raboter sur le prix des fils ou de la connectique, il y a quand même un gouffre énorme entre ce que propose la concurrence et la Famicom. L'autre technique secrète, maintenant ça paraît peut-être, j'aurais dû taper plus tard. C'est que Nintendo a eu l'idée, il y a un autre Warp Zone là mais je la prends pas.
D'accord.
Nintendo a surtout la bonne idée de ne pas marger sur le prix de sa console. Tu vois ce que je veux dire?
D'accord, mais il y a d'autres choses qu'on voit dans le livre quand même qui font qu'ils marchent peut-être pas dans un sens, mais pour autant ils vont essayer de se rattraper. Ils ont une certaine façon de peut-être de procéder par rapport aux éditeurs qui viennent.
C'est bien plus tard ça. À l'époque où je te parle, c'est-à-dire quand
c'est la production.
Mais même quand la console ils la lancent, elle est à 14 800 yens, ils ne font aucun bénéfice sur la console puisque c'est le seul moyen pour eux de la vendre.
Juste avant de faire Gyromite, alors on va se remettre un autre jeu. Tortue Ninja, tu sais y jouer?
Oui. Ah, tu sais, pour ce bouquin, j'ai joué à. Oula.
Mais d'ailleurs, combien de temps le bouquin, il t'a mis combien de temps? Combien de temps t'as mis pour faire
un
ce livre?
Un an et demi. Ouais. Et pour terminer juste le truc que je disais, quand Nintendo développe sa console, on n'est pas du tout dans le même marché qu'on connaît aujourd'hui. Nintendo n'a absolument pas l'intention de laisser d'autres développeurs, d'ailleurs ils ne l'imaginent pas forcément, développer sur leur console.
C'était pas prévu à l'avance donc.
C'était pas prévu. Bah, il faut se rappeler le marché de la console au Japon à cette époque. Il y a 14 consoles différentes, dont des Sega. Chaque console, a ses propres jeux, mais elles se vendent à 40 000, 50 000 unités, pas plus. Ça, c'est le marché du jeu vidéo de l'époque au Japon. Tu vois ce que je veux dire?
D'accord.
Donc, à l'époque, Nintendo se doute pas, évidemment, que sa console va se vendre autant au cours de son histoire. Et surtout, il n'imagine pas que des éditeurs tiers vont travailler dessus. Ensuite, et c'est ça le secret qui est assez amusant, c'est que on l'a dit, Nintendo ne fait aucun bénéfice sur sa console. Alors comment tu veux qu'ils gagnent de l'argent?
Bah oui, parce que s'ils n'avaient pas prévu qu'il y ait des éditeurs tiers.
Bah oui, mais comment, si tu gagnes pas d'argent sur le matériel, tu gagnes de l'argent comment?
Sur la réparation.
Non.
Le service après-vente, non?
Je te parle de machines, ils font pas de bénéfices.
Et bah sur tout l'entertainment qu'on expliquait tout à l'heure.
Sur les jeux. ils gagnent de l'argent sur
ah
les
oui,
jeux.
Ah oui, donc sur leur propre jeu.
Tout à fait.
Donc, alors, d'accord, ok, je comprends.
Et,
okay.
Et tu comprends pourquoi ils veulent pas que d'autres éditeurs tiers viennent au début?
Bah oui, parce qu'ils veulent faire un max de jeux pour faire un max d'argent, ce qui est logique. Bah, pour rentabiliser.
Ils se disent surtout que si d'autres éditeurs tiers viennent sur leur marché, ils vont pas vendre leurs jeux à eux, mais ils vont. Il y a des gens qui vont acheter les jeux des concurrents.
Oui.
Tu vois?
Oui, donc c'est autant d'argent en moins dans les poches.
Tout à fait. Et là, parce que là, en fait, je crois que si tu saisis pas trop l'intérêt, c'est qu'en fait, c'est trop dans le contexte d'aujourd'hui où on sait qu'il y avait un système d'édition, il y a un système de licence, mais à cette époque, ça n'existe pas. Tu vois ce que je veux dire?
Oui.
Donc, Nintendo, vu que les systèmes de licence n'existent pas encore, il se dit, si on autorise les éditeurs tiers à faire des jeux sur notre console, les gens, ils risquent d'acheter les jeux des autres, parce que c'est ce qui se faisait, avec Atari, c'était ça. Atari, l'Atari 2600, t'avais des jeux d'éditeurs tiers, il n'y avait pas de système de licence, et les joueurs étaient libres d'acheter ce qu'ils voulaient. Mais si Nintendo fait la même chose, le problème, c'est que, comme ils font pas d'argent sur les consoles, et si les joueurs achètent des jeux des éditeurs tiers, eh ben ils vont rien gagner.
Oui, alors qu'est-ce qui a fait que...
Eh ben ils ont, au bout d'un moment, vu que la demande était tellement forte, la console commençait à bien marcher, il y avait une forte demande de la part des joueurs, et surtout une demande en jeu, et que Nintendo, ils avaient beau avoir la meilleure volonté du monde, ils avaient des capacités de développement qui étaient limitées, ils ont été obligés de faire appel aux éditeurs tiers, à les autoriser. Et pour éviter le problème dont on a parlé là tout de suite, ils ont mis en place ce fameux système de licence.
C'est là que je voulais te dire que là, voilà. À un moment donné, ils ont quand même...
Mais chronologiquement parlant, il fallait bien situer en fait
le fait
qu'ils ne voulaient pas que les éditeurs tiers au début développent sur la Famicom.
D'accord. Et donc après, donc effectivement, il y a ce fameux système d'éditeurs.
Voilà.
Donc, il y avait des royalties à payer.
Exactement. Les éditeurs, pour développer sur la Famicom, devaient s'acquitter de royautés et puis d'un certain nombre de règles qui les autorisaient à utiliser la machine de Nintendo. Voilà.
Et donc d'ailleurs, toujours dans le livre, on le voit à un moment donné, il y avait une certaine inégalité. Les 6 premiers éditeurs de jeux qui avaient réussi à avoir la licence, ouais. Je dirais, ont eu le droit, eux, de faire leur propre cartouche.
Ouais, là on rentre vraiment dans des détails, c'est vrai que ce sera beaucoup mieux expliqué dans le bouquin, parce que sinon
c'est très long. Mais c'est là qu'il y a eu toute cette légende quand même, juste pour terminer, que c'est vrai qu'à travers les années, on a toujours dit... Nintendo contrôle les éditeurs, vous y payez les cartouches, les éditeurs avaient le droit de sortir que 3 jeux par an.
Oui,
voilà, il y a plein de détails comme ça qui fait que il y a une légende qui fait que Nintendo le jour où ils ont pris la décision, comme tu dis, de laisser développer les éditeurs sur leur console, ils ont mis des règles bien strictes.
Ah oui, oui.
Voilà, ils ont pas laissé ça pour éviter le crash.
Nintendo n'avait pas le choix. Non seulement, comme on l'a vu là à l'instant, si Nintendo ne régularisait pas un petit peu le marché, non seulement on pouvait s'attendre à ce que Nintendo connaisse les mêmes déboires qu'Atari à l'époque. Donc ça c'est une chose. Et seconde chose, il fallait revenir, ça c'est un cul-de-sac, c'est vrai. Et deuxièmement, comme Nintendo, contrairement à Atari ou d'autres consoles, voulait proposer une machine tellement bon marché et performante, qui n'avaient pas de marge sur ces ventes. Donc ils étaient obligés, non seulement pour protéger le marché et éviter et contrôler un minimum la quantité de jeux pour qu'il n'y en ait pas, que ça soit pas inondé rapidement, et puis deuxièmement parce que comme ils faisaient pas de marge et que les autres éditeurs pouvaient empiéter sur ces seuls revenus qu'ils pouvaient acquérir, c'était une façon de compenser le manque à gagner. Voilà.
D'accord. Alors on va peut-être faire Jérôme, parce qu'en plus l'air de rien, l'émission elle avance.
Ça va vite.
Alors, est-ce qu'on va faire Jérômite, qui est le
numéro 6. Notre ami le robot.
Alors, le M82, on peut y mettre 12 jeux.
Ouais.
Ah, donc Hunt.
C'est le numéro 7.
Voilà.
Alors, pour expliquer la petite chose, c'est qu'en fait, notre ami robot, il est capricieux et il a plus envie de tourner à droite ni à gauche, donc on va aller le faire à la main.
Et c'est une star aujourd'hui.
C'est une star.
Et vous l'entendez là, je pense, le bruit. Et c'est une star aujourd'hui parce que, en plus, il a 2 caméras pour lui.
Ah ouais. Donc on va mettre ça. Donc Rob le robot, à quoi il servait? En fait, il servait à tous les gens qui n'avaient pas d'amis à jouer à certains titres, à des jeux comme Jérômite par exemple.
Tu n'avais pas d'amis carrément, tu le définis comme ça quoi.
Ah les gens, voilà.
Il fait un bruit pas possible.
Donc en fait, il te permettait de jouer avec toi Donc on va le voir, par exemple, on va prendre le game B qui est facile. On a un petit personnage qui se déplace sur la gauche.
Oui, il faudra parler fort.
Et puis, on a des blocs, vous voyez, des murs, là, par exemple, un mur bleu.
D'accord.
Et c'est Rob, en fait, qui va nous aider à faire traverser le professeur qui est somnambule. Il faut lui donner des ordres.
Alors.
Donc là, si par exemple, je vais lui demander de faire baisser la porte bleue. Pour faire baisser la porte bleue, il va être obligé de prendre la toupie, la déplacer ici, et en appuyant sur le bouton, en lâchant la toupie, on va voir que le bouton va faire comme ça. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va ouvrir la porte, et le personnage va...
ouvrir le...
Voilà. Etc.
Bah, et vous pouvoir passer.
Donc, bon là, je vais passer la main. Ensuite, en récupérant, ça va faire passer. Bon, on va s'occuper de la porte rouge.
D'accord.
Donc là, je vais lui donner des consignes. Déjà, je vais lui dire de baisser un petit peu ses bras.
Donc, c'est toi qui pilote tout là.
Là, je pilote.
Ah, c'est génial. Tu sais que j'y ai jamais joué. Hein.
Ensuite, je vais lui demander de fermer ses bras. Voilà. Donc, il le prend. Il a pris la toupie. Allez hop, on soulève, on se dépêche. La toupie tourne. Donc là, comme il tourne plus à droite ni à gauche, on va le faire à la main.
Il tourne plus là maintenant? Parce qu'il est retourné après.
Non, il tournait. On sent que le moteur est fatigué. Ensuite, on lui dit de se déplacer jusqu'au bouton rouge. Une fois qu'il est sous bouton rouge, on le fait baisser.
Attention. Ah, tu peut-être pas.
Si, ça va aller. Et il ouvre. Il va lâcher.
Et la toupie va devoir tourner normalement.
Il veut plus l'ouvrir. Hey! Voilà. Il a lâché. On a vu la porte là, qui vient de s'ouvrir.
Et là, la toupie, elle tourne dans le vide, là.
Elle tourne dans le vide. Maintenant, pendant que le bonhomme, il est là, il faut se dépêcher. Hop, baisse-toi. Avant que la toupie, elle s'arrête et qu'elle tombe. Ferme tes bras. Il a pris. Et tu remontes. Ça va relâcher le bouton de la manette.
Et ainsi de suite.
Et là, je viens de terminer le niveau et j'arrive de l'autre côté.
Et qu'est-ce que tu penses de l'aspect
Donc on va le remettre, il faut le remettre vite fait dans le truc pour la toupie, parce que sinon elle s'arrête.
Ah, c'est de l'autre côté la toupie encore.
Ouais. Mais là, je remonte un peu les bras. D'accord. Pour qu'il puisse...
On en a deux, hein, des robes le robot. Hein. On en a deux et
voilà.
Les deux sont fatigués en fait, malheureusement pour nous.
Regarde, c'est pas la classe. Et là, donc, on passe au niveau suivant.
Et là, le robot, parce qu'il y a un moteur.
Il y a un moteur interne, donc ça redonne de l'élan à la toupie. Maintenant, on remonte. On va essayer de lui faire passer sur le niveau bleu. Là, normalement, là, je suis en train de lui donner un ordre pour aller à gauche. Et toi, il veut pas. Donc, hop, on va l'aider un petit peu, l'handicaper.
C'est le tien.
Ensuite, on le baisse. On lui dit d'ouvrir les bras. Il veut pas les bras. Ouvre. Hop.
Ah, et là, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il va falloir que tu montes. Ah, là, ça va être.
Il va monter tout seul.
D'accord.
Ensuite, pendant qu'il monte, je reprends le truc, ça ferme. Tu vois, il est en train de monter, le petit personnage.
Ouais.
Hop. Ça va libérer le bouton, ça libère le passage. Et là, il faut lui redonner un petit peu d'élan vite fait. Monte.
Et ainsi de suite.
Et voilà. Et bon, alors, c'est... franchement...
Il y a eu deux joueurs dessus. Hein.
Ouais, il y a deux jeux. C'est très rigolo, mais bon, au bout d'un moment, tu vois, c'est...
Alors, comment ça fonctionne exactement là? Parce qu'on là, il y en a qui doivent se poser la question, mais qu'est-ce qu'il fait? Comment il réagit comment à la manette? Il n'est pas branché à la manette, là?
Il est branché à rien du tout, en fait.
Il est autonome.
Il est sur pile. Il est totalement autonome. C'est les deux yeux. Il y a une lentille photosensible à l'intérieur.
D'accord.
Une pile photovoltaïque. Et quand j'appuie sur un bouton, l'écran émet un flash. Je vais te montrer là. Hop, quand tu appuies, ça met un flash qui est
détecté. C'est les couleurs.
C'est pas les couleurs, c'est un peu comme un code barre. Tu as des flashs qui sont stridents. Et en fonction de la fréquence du flash, il va le détecter. Il va ressentir ça comme un ordre. Donc, à chaque commande que je fais sur ma manette, correspond à un flash particulier qui va être détecté par les yeux du. On va tenter un coup difficile. Lâche-le d'en haut.
Oh! Et donc, il n'y a eu que deux jeux jeux.
Exactement, il n'y a eu que deux jeux, en fait. Et le robot a été rapidement oublié parce que, tu vois, c'est quand même assez lent. Et en plus, il veut pas se baisser plus.
Au niveau gameplay, c'est un peu...
Voilà, baisse-toi.
Il a un petit peu le pauvre, il est un petit peu...
Attends, je crois qu'il est fatigué, ça y est, il s'est endormi.
Ça m'a eu la chance.
Oh. Hey, bonhomme. Bonhomme.
Allez, on va peut-être prendre un dernier jeu et pour conclure l'émission quand même.
Ouais.
Ça passait vite le temps, qu'est-ce que t'en penses?
Ça passe vite.
Dans cette cacophonie, c'est pas évident. Hein.
Non, non seulement c'est pas évident, mais très bien.
Okay. Alors qu'est-ce qu'on va prendre comme jeu? Qu'est-ce qu'on va prendre? Kabuki Quantum
Fighter.
Fighter.
Ça va, ça va.
Ah bah si, ça va payer. Voilà. Oui, alors,
c'est un bon jeu d'action, ça, d'ailleurs. Hein.
Il y a une question que je me pose quand même, c'est que souvent dans tes livres, tu vas interviewer des gens, tu vas au Japon, tout ça. Et là, j'ai vu que tu as été interviewé apparemment, tu as été voir des gens de Nintendo France cette fois-ci. Quelle a été la démarche, par exemple?
Bah d'ailleurs, si tu ressors les deux bouquins, les deux premiers volumes de l'histoire de Nintendo, je traite d'une période en fait obscure chez nous, puisque c'est les tout débuts de Nintendo, de 1889 à 1980.
Donc ça, c'est le premier.
Exactement. Et puis ensuite, il y a une autre période qui sont les Game & Watch. Malheureusement, à cette époque, Nintendo France évidemment n'existe pas. Nintendo utilise encore un système de licence pour commercialiser ses Game & Watch. Donc, il n'y avait pas grand-chose à raconter sur l'histoire de Nintendo en France. C'est à partir de la NES en 87 qu'on découvre Nintendo, en tout cas dans nos contrées. Or, je trouvais extrêmement dommage pendant toutes ces périodes de constater que sur beaucoup de sites et dans les magazines de rétro, etc., on ne parlait tout le temps que de l'histoire de Nintendo au Japon. Quand on parlait de la NES en France, on disait alors il s'est vendu 15 millions de consoles aux États-Unis. Et pourquoi on parle tout le temps des États-Unis? Enfin, tu vois, pourquoi on n'a jamais de chiffres de chez nous, etc. Je me suis dit, mais pourquoi personne n'a jamais cherché à comprendre et à savoir comment notre histoire en Europe et plus particulièrement en France, on a découvert ces consoles-là. Et donc je me suis mis à faire des recherches et puis à rencontrer des gens. Et notamment le fondateur, la personne qui a été démarchée Nintendo pour obtenir une licence d'exploitation pour distribuer la NES en France. Donc les tout débuts de Nintendo en France et au final il y a quoi une bonne quinzaine d'intervenants pour cette histoire de la Famicom et de la NES. Et je suis assez fier vraiment de cette histoire de la Nintendo en France, puisque c'est quelque chose qu'on n'avait absolument pas.
Savoir toutes les anecdotes, un peu comment ça s'est passé, la démarche.
Et pourtant, et en plus, si on a des choses étonnantes sur l'histoire de Nintendo en France, des choses passionnantes, vraiment étonnantes aussi. Donc, je pense que ça va beaucoup plaire.
C'est bien pour ça qu'on disait, donc, il y a la NES, la Famicom. Donc, la Famicom, celle-ci, a sa vie, a une histoire au Japon.
Tout à fait.
Mais celle-ci, au Japon, celle-ci n'a pas d'histoire.
Absolument pas.
Donc l'histoire de celle-ci, c'est la France, les États-Unis.
Voilà, moi je me suis concentré sur la France et l'Europe.
Voilà.
Je ne parle pas des États-Unis pour la simple et bonne raison que il existe déjà un excellent bouquin qui s'appelle Game Over, génération Nintendo en français, et qui parle déjà de cette période. Et j'ai laissé en fait l'histoire de Nintendo of America, de la NES américaine, à ce bouquin, voilà.
D'accord.
Donc, si vous voulez tout savoir sur la NES en France, l'histoire de Nintendo, les débuts de Nintendo en France, voilà.
Voilà.
C'est la référence.
Et c'est d'ailleurs cette partie-là qui m'a bien plu dans ton livre.
Ah, c'est gentil.
C'est vraiment de se dire, ah, mais il a pas fait ce que tout le monde fait. En plus, Florent Gorge, bon, bah, on sait, tu parles le japonais, tu lis le japonais, t'es traducteur, etc. Donc, on connaît le Florent Gorge qui va interviewer des japonais, qui ont participé à des jeux vidéo.
Ouais.
Et c'est vrai qu'on, quand on commence le livre, on s'attend pas à ça.
Ah.
Bah, c'est vrai qu'on s'attend pas à ça, on s'attend à avoir une partie japonaise de la NES, de la Famicom.
Non, mais tu sais, on a toujours des détracteurs, etc. Mais quand il y en a qui pensent et qui disent que je ne fais que copier, que je ne fais pas de recherche ou d'investigation, bon, bah, là, au moins...
Là, on peut voir que c'est le cas.
Au moins, là, c'est le cas,
voilà. Voilà. Est-ce qu'il y en aurait d'autres choses à dire, peut-être? Le disque système, il y a tellement de choses à lire.
Ah là là,
c'est d'ailleurs pour ça que le livre il existe, c'est d'ailleurs pour ça.
Ouais.
C'est pour cette simple et bonne raison que tu as fait un livre. Là, c'était parler un petit peu de la NES. Est-ce qu'on l'a fait correctement? Pas
non.
Certain.
j'ai pas très bien vendu la NES à la Famicom aujourd'hui. Mais non, mais c'est vraiment une histoire passionnante.
C'est une console NES, extraordinaire. C'est
avec des tentatives, le disque système, tu peux au moins le montrer avec son système de disquettes.
Parce que j'ai le Power Glove dans les mains et c'est pas évident.
Ouais, tout à fait. Ah oui,
je vais l'enlever. Bien. Power Glove. Power Glove, c'était l'ancêtre de la Wiimote.
Franchement, jouer sans se concentrer, je préfère encore un Batman.
Ah oui, bah alors là, tu vas voir, on va voir un super Batman.
Ah oui.
Ah oui, non mais on va voir le super Batman. Ah, c'est pas,
il est différent.
Ah, il est différent. Il est homebrew celui-là. Ah, ah, ouais. Ah ouais, c'est une version introuvable. Voilà.
En effet.
j'ai rien pu faire. tu as cassé les coulisses, c'était ce qu'il fallait pas montrer. Non, je rigole.
Non, mais en plus, c'est une cartouche normale.
Ouais, tu vas pouvoir y jouer, tu penses. Alors, oui, donc le disque système, on terminera doucement sur ça. Mmh. Donc, le disque système, il faut se remettre dans l'idée que là, c'est une cartouche donc NES.
Ouais.
Là, c'est une cartouche Famicom. Le gars, il crâne en plus, rien.
Oh là là,
une cartouche Famicom
avec un Mister Splash.
Et là, on a l'équivalent. Donc là, on vous montrait comment dire Castlevania. Et on a l'équivalent en disquette.
On va faire un Mario parce que là, au moins, j'ai pas besoin de me concentrer.
Y a pas un autre jeu qu'on n'a pas joué?
Je vois, y en a plein. Super Spike V-Ball, mais là, allez, un petit jeu de course. Et donc, tu disais?
Ah, tu vas vite, toi.
Ah bah tu appuies à bout. Ouais. Juste hop.
Voilà. Et donc voilà, donc là c'était les disquettes. Mmh. Et c'était pourquoi les disquettes? Juste, on va pas s'étaler forcément, mais c'était dans quel but?
En fait, Nintendo a mis au point un système très ingénieux de téléchargement, puisqu'on parle déjà en 1986 comment on appelle ça, de dématérialiser. Nintendo met au point un disque système. Les disquettes, en fait, permettaient de graver et de un peu comme les disquettes qu'on a tous connues, mais de modifier les informations à l'intérieur. Contrairement aux ROM dans les cartouches, qui une fois qu'elles étaient gravées, les joueurs pouvaient plus rien en faire. Ils se contentaient. Là, avec les disquettes, ils peuvent changer le contenu du jeu. Et quand ils se rendaient dans les magasins à l'époque, les magasins de jeux vidéo, il y avait des bornes de téléchargement qu'on appelait les disc writers. Et pour 500 yens, c'est-à-dire 4 euros, ils pouvaient en fait supprimer le jeu qu'ils avaient dans la carte, dans la disquette, et en rajouter, en prendre un autre.
Et ça, c'est pervers, ça aussi.
Pourquoi?
Parce qu'on se retrouve bien des années après maintenant, quand on va au Japon.
Ouais.
Qu'est-ce qui se passe maintenant quand on achète un jeu?
La plupart du temps, aujourd'hui, les collectionneurs, c'est vrai que bon, les magasins souvent vérifient, mais quand on trouve un disque système et qu'on a une étiquette avec marqué Zelda dessus, puisque Zelda est sorti sur disque système au début, comme Metroid, et qu'on le met vraiment dans la machine, on se rend compte que des fois, c'est un autre jeu, quoi.
Et d'ailleurs, on le voit, c'est Zelda. Tu expliques que c'est Zelda qui a lancé le disque système.
C'est un des jeux de lancement, ouais.
Qui a vraiment démocratisé de par sa qualité, je dirais, qui a lancé le système, quoi.
En fait, si on revient, parce que on a une histoire de la NES qui est tellement différente de ce qui s'est passé au Japon qu'on a du mal à réaliser, mais le gouffre qu'il y a entre l'avant Zelda et l'après Zelda est phénoménal. C'est-à-dire qu'en 86, quand sort le premier Zelda, il sort sur disque système, et la force en fait de cet accessoire, c'est que ça propose une capacité de stockage qui est trois fois plus importante qu'une ROM, qu'une cartouche.
À cette époque. 32 kilos, oui.
C'est ça, et là il y en a 112.
112, donc c'est plus de 3 fois.
Ouais, mais comme c'est double face et que tu.
Ouais, c'est pas évident.
Donc c'est un peu. Voilà, donc c'est un peu. Sera un peu compliqué. Et ça permet ensuite de sauvegarder ces parties en cours de route.
Que ne pouvaient pas faire les cartouches,
que ne pouvaient pas encore faire.
Pile.
C'était pas encore.
Bien plus tard.
C'est
d'accord.
Arrivé en 87 avec d'accord. Un jeu de shogi, un jeu d'échecs.
D'accord.
Mais avant ça, le stockage ne pouvait pas, n'était pas possible. Le système de. Donc ça, c'est une deuxième possibilité. Donc il y a plein de petites choses qui font que, en fait, Zelda, quand ils sortent Zelda, jamais sur Famicom on avait vu de jeux aussi vastes, aussi grands. T'avais une double quête, des heures et des heures de jeu. Alors qu'avant, les premiers jeux sur Famicom, si vous vous souvenez, c'était quand même du Donkey Kong, des trucs avec des tableaux, mais qui étaient à répétition. Donc c'était une profondeur qui était inouïe pour cette époque. Voilà.
C'est vrai que c'était.
C'était un des avantages de la Famicom et du disque système. Voilà.
Et donc juste le disque système, pour dire, c'est un, ce n'est pas sorti en Occident, c'est resté.
Non.
Qu'au Japon,
oui.
Il y avait même des bornes où on pouvait changer, télécharger nos jeux dans la rue.
C'est les disques writers, tu pouvais.
Tu avais soit en boutique.
Ouais.
Et c'était les disques writers aussi en boutique.
Tout à fait, ouais.
D'accord, c'était les mêmes qu'il y avait dans la rue.
Dans la rue, non, il n'y avait pas de distributeur de jeux Famicom dans la rue.
C'est devant les boutiques alors.
Devant, dedans, enfin peu importe.
Parce que moi, je me réfère à la photo que j'ai vue dans le livre et il me semblait que c'était dehors. Bon, c'est un autre détail.
Je pense que t'as mal vu sur la photo.
j'ai mal lu.
Ouais.
J'étais comme Rob le Robot, j'avais un petit problème ce jour-là.
Non, il n'y avait pas. Parce que de toute façon, pour graver un jeu, il fallait l'aide du vendeur du magasin. C'était pas en, totalement en libre service.
D'accord. Donc, voilà. Et juste pour petite anecdote encore en plus qu'on peut voir dans le livre, c'est que il donnait un petit autocollant histoire de marquer le coup pour dire.
Bah c'était une fois que tu avais gravé un jeu pour savoir ce qu'il y avait dedans, le vendeur voilà. À chaque fois que tu prenais un jeu, il te filait normalement un jeu d'autocollant que tu pouvais remplacer.
Jusqu'à ce qu'il soit en rupture de stock et.
Voilà. Et non mais des fois les enfants oubliaient de coller le truc tout ouais. Simplement. Enfin, donc ce qui fait qu'aujourd'hui on a du mal des fois à savoir ce qu'il y a dans les disques qu'on trouve en occasion. Voilà.
D'accord. Et le dernier jeu, comme ça on se laissera sur ça.
Spy, bon.
Et aussi donc les lunettes 3D que normalement j'aurais dû avoir ici, mais j'ai oublié de les prendre en fait, elles sont juste à côté, elles sont là. Mais c'est pas grave parce que la magie du montage fait qu'on les voit. On voit avec.
Ah, t'es beau.
Tu vois comment je suis beau avec.
Ah, t'es... Ouais,
la classe. La classe. Voilà, donc voilà, alors.
Écoute, faut jouer à deux en fait.
On aura fait un une émission bien spéciale.
Ouais,
dans tous les sens
ouais,
du terme.
C'était un peu. Un peu bordélique.
Au freestyle.
Ouais, c'était un peu freestyle.
Mais c'est
toi,
pas
Rob, là, pourquoi il joue pas là? C'est lui qui a la manette 2 là.
C'est vrai que c'est pas évident de parler de la NES comme ça en une petite demi-heure. On a dépassé la demi-heure.
Ouais. Non, donc, mais voilà, achetez le bouquin.
Voilà, donc l'histoire de Nintendo. Oups. L'histoire de Nintendo 3 qui parle exclusivement de la NES et de la Famicom.
De l'histoire de la NES, la Famicom, ouais.
Voilà.
Et ça vaut le détour, il y a vraiment... On rentre vraiment dans le vif du sujet, hein.
Ouais.
Autant avec les deux premiers qui étaient qui ont déjà beaucoup plu, là on rentre enfin, parce qu'il y en a qui attendaient qu'on parle des jeux vidéo, qui ne voulaient pas se procurer les deux premiers. On rentre dans le vif du sujet et il y a du lourd.
D'accord. Alors, je te laisse faire la fin, comme à l'accoutumée. Donc c'est à toi de dire au revoir aux gens.
Bah écoutez, merci les gens d'avoir suivi pendant cette demi-heure.
Bien folklore.
Bien folklore, non mais il y a eu des choses intéressantes. On a vu Rob en action, même s'il voulait pas tourner à droite.
Mais Rob le robot.
C'est celui d'un ami en plus, c'est pas le mien.
Ah d'accord.
Mais en tout cas, voilà, l'histoire de Nintendo, un an et demi de travail, beaucoup de gens l'attendaient et je pense qu'ils seront pas déçus. Il y a vraiment beaucoup de choses inédites et puis n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, venez sur omahakebooks.com et puis une fois que vous avez lu le bouquin qui est dispo aujourd'hui dans différentes
ça boutiques. S'affiche en plus entre nous deux,
ouais.
Ça a failli nous bousculer mais
voilà,
voilà. Et juste tu
vos
peux laisser la pause et j'aurais juste un bémol à mettre par contre par rapport au livre, j'ai quand même un bémol, c'est qu'une fois qu'on a terminé le tome 3, comme c'était pour le tome 1 et pour le tome 2, et ben on veut le tome 4.
Ah bah il va falloir.
Donc ça c'est vraiment un problème, il va falloir que on commence à être on est addict à tout ça. Hein.
Eh ben écoute.
Donc et, bah voilà.
Non mais je travaille d'ores et déjà, je suis sur le numéro 4.
D'accord.
Qui traitera de toute la gamme des Game Boy.
Voilà.
Il y a du lourd.
Donc au revoir, tu dois dire au revoir, salut, à bientôt.
Salut à tout le monde et puis faites-nous part de vos commentaires. Hein,
sur oui, ils peuvent venir sur au
MacBooks.
Éventuellement
ouais.
Pour.
Dans les commentaires, ils marquent ce qu'ils veulent, si ça leur a plu, si ça leur a pas plu et puis voilà.
Ah, ben vous êtes sympa les gars. Bon, alors pour la peine, on va vous parler du framponnet vite fait sur omakebooks.com, le framponnet.
Je t'avais dit qu'il restait.
La classe.
Il faut peut-être qu'il parte là quand même.
Mais, eh oh. Dehors.
Ouais, mais c'est moi qui fais le montage. Ah. Coupé.